When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Allez,
let's go!
Il me hurle dans les oreilles.
Pardon, oui, c'est vrai, c'était un peu...
Salut, c'est Louise Petrouchka.
Et salut, c'est Clément.
Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode du son d'après. Nous sommes au numéro 61.
C'est vrai. C'est marrant, je pense que plus le numéro passe, plus on les compte en fait. c'est marrant, on n'avait pas du tout ce réflexe au début.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais, mais là,
j'ai pas le souvenir du tout.
Chaque épisode est un accomplissement supplémentaire.
C'est ça, c'est maintenant qu'on a passé la barre de 2 ans, on est en mode ouais, encore allez. Alors.
vous écoutez donc
le son d'après, qui est un podcast de découverte musicale. Je suis Louise Petrouchka et je suis en compagnie du meilleur binôme de la planète, j'ai nommé Clément.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Écoute, ça va très bien.
Ouais. On est enthousiaste aujourd'hui.
Exactement, comme d'hab, comme à chaque fois qu'on enregistre.
On a une bonne pêche de nouveaux artistes à faire découvrir.
Écoute, je suis content parce que c'est vrai que par moment, quand on doit préparer l'émission, peut-être initialement, t'as l'impression d'avoir écouté les 4 mêmes albums, 2 trucs assez populaires.
Ouais.
Et donc tu dis, je sais pas sur quoi je vais partir. Et puis tout d'un coup, boum, il y a un artiste qui pop. Quand tu commences à creuser juste un petit peu, soit les discographies, soit d'où viennent les gens, il y a toujours plein d'histoires chouettes à raconter. Donc ouais, je suis hyper content de vous parler des 2 artistes que j'ai ramenés aujourd'hui.
Formidable. Et bien, moi aussi, je suis ravie, ça tombe bien, puisqu'on va être ensemble pendant à peu près 45 minutes, un truc dans le genre, et on vous présente chacun 2 artistes, et Clément, c'est toi qui ouvre le bal.
J'ouvre le bal avec un artiste que j'ai découvert récemment grâce à Radio Nova, en l'occurrence l'émission Le Nova Club, animé par David Blo. J'entends, tu vois, c'est cool parce qu'en fait je crois qu'il fait le Nova Club globalement, en tout cas moi l'émission que j'écoute, ça sort le lundi et il te fait un peu les sorties du vendredi de la semaine d'avant,
tu vois.
Donc c'est cool, tu vois, il y a en général une dizaine d'artistes comme ça qu'il a retenu. Il y a un peu des artistes populaires, tu vois, récemment il a parlé de Rosalia, tu vois, du nouveau Rosalia, et puis de temps en temps, voilà, en tout cas moi il y a des artistes que c'est l'occasion, tu vois, dont j'avais jamais entendu parler, et là j'entends un morceau et je tombe direct sous le charme. Le morceau était pas annoncé tout de suite et du coup je suis interpellé par la voix du chanteur en question, et parce que pendant un instant je me dis mais attends, c'est bizarre, c'est John Mayer. Et puis, en tout cas, ça ressemblait vraiment à John Mayer. Du coup, je vais voir un peu sa setlist, tu vois, qu'il y a dans la description du podcast. Et non, je vois un nom que je ne connais pas, qui s'appelle Velvet Negroni. Velvet Negroni, c'est le pseudonyme de Jeremy Nutzman. Il a sorti en fait plusieurs albums et changé plusieurs fois de pseudonyme jusqu'à opter pour Velvet Negroni en 2017. Ses influences, il les puise aussi bien dans le grunge que dans le rap ou la musique de Prince. Donc ça donne une musique finalement assez hybride, du R&B alternatif au teint un peu de pop indé, de rock et voire même de quelques sonorités électroniques.
Okay.
Vous allez voir, je vous propose tout de suite qu'on écoute un extrait du morceau que j'ai retenu pour l'occasion. Ça s'appelle Poster Child et c'est tiré de son deuxième album qui s'appelle Neon Brown. You sound defeated. Every day simulated, hip hip talk daily, you faded. You know you're not supposed to say that, that's crazy. Outside sacrifice that drywall. Tossed off, yeah, whatever though, yeah. So false, I found out the evidence. So false, I bounce off the bed again. What the fuck was I supposed to do? Call you over, get close to you. Let me know if you're frozen too. Let me know what this dose will do. For the love of the poster child. Didn't know we could go so wild. What we do in the poster now. When we doing the most for miles. What the fuck was I supposed to do? When they're crawling all over you. Let me know if you're frozen too. Let me know what this dose will do. For the love of the poster child. Didn't know we could go so wild. What we do in the poster now. When we doing the most for miles. Die, 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 die
Whose grave do I dig in your backyard? Tears be difficult to hear, my dear, my love.
Voilà, c'était Velvet Negroni et son morceau Poster Child.
C'était trop bien.
Ouais, t'as kiffé?
Ah ouais, j'ai adoré.
Et bah, tu m'envoies ravi.
C'est pas très compliqué de me convaincre sur un morceau comme ça.
Non, mais c'est quoi, c'est rigolo parce que c'est, tu vois, typiquement, je le découvre pas grâce à ce morceau-là. Je le découvre avec des morceaux de l'album qui vient de sortir là, il y a quelques semaines.
Okay.
Et tu vois, je flash, mais je crois déjà à l'époque, sur le morceau en question, sur son sens de la mélodie, tu sais, voire même de la chanson. Je trouve qu'il a, en fait, il a quelque chose d'une efficacité pop. Dans sa voix notamment, ouais, dans sa manière de chanter, je trouve, et qui est mélangé du coup avec des rythmiques et sonorités peut-être un peu plus expérimentales.
Prod elle est chambée, hein.
Ouais, la prod est vraiment trop bien, et en même temps je trouve que tu vois c'est pas, enfin voilà, même je dirais expérimental avec des guillemets parce que c'est pas
oui c'est vois. Juste de la musique de sample en fait, non? Beaucoup
je
sample,
sais pas ça, j'ai pas ces infos là, je suis pas sûr. Okay, moi je trouve
on dirait vraiment, enfin je sais pas comment dire, pas de la musique de sample en mode il y a des samples clairs à trouver, mais de beatmaker quoi.
Ah peut-être.
Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Je vois ce que tu veux dire. Je trouve que, en tout cas, moi, ce qui me saute à l'oreille, c'est quand même cette manière de faire, je trouve, de la musique avec des petites choses. Tu vois,
ouais. Je trouve, tu vois,
c'est ça, oui, ouais. Bah, je pense que voilà, c'est ça, du coup, je pense que voilà, on est d'accord là-dessus. C'est des petites choses, mais en même temps hyper bien orchestrées et qui donnent, du coup, je trouve quelque chose à sa musique d'assez singulier. Et du coup, voilà, moi je découvre un peu les morceaux sur le dernier album. J'ai la curiosité, du coup, d'aller écouter celui d'avant qui s'appelle, du coup, Neon Brown. Que c'est son deuxième album, c'est tiré de Poster Child et tiré de ce deuxième album.
Okay.
Et en fait, tu vois, la première écoute est très agréable et je coche un peu les titres. Et c'est vraiment finalement en me disant, tiens, vas-y, je vais me plonger dans son œuvre. Que là, tu vois, en réécoutant la musique, j'ai vraiment une vraie. Qualité à la réécoute.
Ouais, je vois ce que je veux dire.
En réécoutant au casque et tout, je fais, mais en fait, c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Juste une première impression qui était peut-être juste une première écoute, tu vois, qui était.
Oui, qui était pas très attentive, mais.
Exactement, mais qui était très agréable. Ouais, en fait, ouais. Vraiment à la réécoute, j'ai fait, mais en fait, non, c'est vraiment plus que ça parce que j'avoue que je suis particulièrement sensible, comme je vous le disais, je pense que c'est ça qui m'a attiré à sa voix. En fait, maintenant, pour avoir écouté plus de lui, je trouve que c'est un mix entre John Mayer et Kid Cudi. Tu vois, il y a un côté un peu entre les deux.
Ok, vois plus Kid Cudi que John Mayer là sur le morceau qu'on a écouté.
Et bah pourtant, tu vois, là c'est.
Parce que je connais très mal John Mayer en vérité, je pense.
Bien sûr, moi toutes ces notes un peu, par exemple, quand il pousse sa voix un peu plus loin, c'est quelque chose que fait pas mal John Mayer sur ses morceaux pop. Et c'est aussi, c'est ça, cette sens de la pop, je pense, qui me le ramène. Voilà, je pense que c'est, tu vois, ces deux références qui m'ont popé un peu en l'écoutant et qui bah clairement sont deux trucs qui me parlent beaucoup. Et du coup, pour vous parler, bah là notamment, je trouve que l'album Neon Brand dont est tiré ce morceau là, j'ai juste trouvé ça hyper bien. À chaque nouvelle écoute, je découvre un peu des nouvelles couches et des nouveaux petits kiffs musicaux. Donc voilà, j'ai pas 10 000 choses, je sens juste que là voilà, je me suis pris une jolie proposition d'un artiste voilà dont je n'avais pas du tout eu vent. Et pour voir un petit peu, par contre, ça, j'ai été agréablement surpris de voir que il a notamment déjà collaboré avec Dua Salé, que j'ai ramené ici. Et en vrai, je suis pas étonné parce que je trouve qu'on est sur des,
tu vois, univers sont assez similaires,
qui peuvent se rapprocher. Il a fait des chœurs sur un album, je sais, qui nous est cher à tous les deux, sur le Hi-Hi de Bon Iver.
Oh, ok.
Voilà, il a fait des chœurs avec lui. Super. Et je sais qu'il a été samplé aussi par Kanye West sur le projet Kitsy Ghost. Voilà, donc voilà, c'est des. Finalement, quand tu creuses un petit peu, je suis pas étonné.
Ça fait sens que ça ait une place dans ta discographie, c'est
exactement,
sûr.
Exactement, voilà.
Ta discothèque plutôt que ta discographie.
Oui, ma discographie, un jour peut-être, pas du tout. Mais
J'ai des bouts de toi qui chantent en...
Oui, il y aura peut-être de quoi faire une compile de morceaux de 30 secondes à la fin du son d'après.
This is... et compagnie.
Oh, le mauvais album. Badant. Bon, pour parler de choses plus réjouissantes, du coup, je vous propose l'album Neon Brown, qui est son deuxième et qui a vraiment, je trouve, une très belle homogénéité de son. Moi, je pense que c'est vraiment l'album parfait pour le découvrir. Si vous avez envie de prolonger, je vous conseille du coup le dernier qui s'appelle Bully, qui est à la fois, bizarrement, à la fois plus expérimental et plus pop. Une pop presque à la Vampire Weekend, je trouve, sur certains morceaux. Voilà, comme c'est un peu comme s'il avait poussé les deux curseurs, tu vois. Et je trouve que du coup, je trouve que l'ensemble est moins homogène, mais il y a quand même, je trouve plein de moments très intéressants dans l'album. Donc c'est plutôt cool. Et je vous conseille d'aller écouter du coup le morceau Imi de Bon Iver. C'est le morceau sur lequel il fait les chœurs.
Oui.
Et ça vous donnera, je pense, instantanément envie d'écouter tout l'album. En fait. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis allé réécouter le morceau et finalement, j'ai écouté tout l'album.
N'hésitez jamais à écouter Bon Iver.
Bon Iver. Matin, midi et soir. Voilà, c'est tout pour moi. Et Velvet Negroni.
C'était super, merci.
On passe au son d'après.
Écoutez, de mon côté, c'est vache maigre en ce moment en termes de musique. C'est simple, j'ai l'impression de ne rien écouter, c'est vraiment désastreux. En tout cas, aucun projet dont j'ai vraiment envie de parler pendant de longues minutes ici, quoi. Aucun, à part vraiment les plus grosses sorties de ces derniers mois. Pour tout vous dire, j'ai failli ramener Aya Nakamura, voilà, son nouvel album DNK défonce, mais... Je suis pas vraiment sûre d'avoir grand-chose de pertinent à vous partager, sachant que c'est vraiment une des artistes françaises les plus écoutées au monde. Par contre, j'ai décidé de garder mon second choix, parce qu'il faut qu'on parle de Ro Alejandro. Alors, c'est un autre artiste qui s'ajoute à la longue liste de ceux que je n'aimais pas avant de changer d'avis et de les présenter dans le son d'après. Et je pense qu'à ce niveau, il faudrait faire une thèse.
Ah, ou une playlist, en tout cas, de « J'ai retourné ma veste ».
J'ai retourné ma veste, je peux la faire. Ça va être très, très simple. Il y en a trop déjà des artistes comme ça. Et Ro Alejandro en fait partie parce que... Alors déjà, pour toutes les personnes qui ne seraient pas aficionados du reggaeton, c'est un artiste originaire de Puerto Rico. Il a 30 ans et il a sorti son troisième album Saturno le 11 novembre 2022. Et franchement, je vais être très honnête avec vous, j'étais pas partie pour l'écouter, voilà, parce que j'avais tenté l'expérience avec son album précédent, Vice Versa, quand il était sorti en 2021, et bah j'avais pas compris l'engouement, vraiment j'étais perplexe, j'ai lâché l'affaire sur Ro Alejandro et j'ai fait ma vie. Et puis bah c'était sans compter sur le média Jetlag bien sûr, dont on avait reçu le fondateur ici, Robin, qui est maintenant un copain, dans un épisode spécial avec invité et tout, et bah Jetlag c'est un média qui est spécialisé sur toute la scène musicale hispanophone. Le jour de la sortie, ça m'attraque. Alors, Ro Alejandro est-il capable de faire tous les genres possibles et imaginables? Est-ce que c'est un des artistes les plus innovants de sa génération? Bref, donc moi je suis un peu intriguée. Mais comme j'ai la tête dure, je me dis, bon ok, je vais aller checker le disque pour voir si je peux pas trouver 2-3 morceaux cool à ajouter dans mes sets. Mais pas, tu vois, avec
intéressé.
L'intention. Ouais, voilà, c'est pas avec vraiment...
Je vais aller chercher les 2-3 bastos bien efficaces. Exactement. Qui vont faire bouger le public et puis voilà.
Exactement.
Et c'est quand même, tu as un sens du devoir, tu vois, c'est consciencieux.
Bah
quoi.
Ouais, voilà. Je me dis, c'est quand même un genre musical, a priori, qui match ce que je mixe, donc je vais aller voir ce qu'il fait, quoi. Et avant ça, j'avoue que j'avais un pauvre morceau de Ro Alejandro perdu au milieu de mon disque dur, que je pense j'ai jamais passé en soirée, alors qu'il est très bien, hein, mais bon, c'est vrai que... Voilà, j'étais un peu perplexe. Et là, j'écoute et j'avoue qu'en effet, je récupère quelques morceaux qui me plaisent pas mal. Et en décembre, je joue à Barcelone en compagnie de Robin et Pedro Lito, donc de Jetlag. Et pour préparer la soirée, je me dis, bon, quand même, va falloir se refaire une culture sur certains artistes majeurs. Et tu peux pas passer à côté de Ro Alejandro, tu vois. Genre, c'est vraiment un des gros artistes de la dernière décennie. Ce serait un peu dommage, quoi. Et donc, j'écoute. Alors, un peu à la va-vite, tu vois, il y a des morceaux... un peu langoureux et tout, je suis en mode non, ça c'est pas pour les 7, ça c'est pas pour les 7 et tout, mais j'écoute quand même ces 3 albums et ces 2 EP, et je me retrouve au final avec une quinzaine de morceaux dans ma clé USB, donc c'est que...
C'est pas mal quand même.
C'est que quand même, c'est pas mal.
Il y a 18 morceaux, voilà, y a 18 morceaux sur l'album, donc c'est quand même une bonne...
Sur les 3 albums et EP, hein, non, ouais. Et du coup, là, je me dis quand même, petit signal d'alarme qui me dit, est-ce que tu serais pas un peu con du cul? Est-ce que ça serait pas le moment quand même de commencer à s'y mettre? Et pendant la soirée, il y a un des gars qui passe Punto 40, qui est un de mes tracks préférés de l'album, maintenant que j'ai pris le temps de l'écouter plusieurs fois, je peux vous le dire. Et vraiment, je me dis, bon, je suis une bouffonne, c'est bon, on rentre à Paris. Je me fais d'abord une petite session de boulimie sur Punto 40, tu vois, où je l'écoute en boucle et je me dis, oh, c'est vraiment trop bien, putain, machin. Puis je finis par écouter tout l'album. Et donc, vous savez déjà, si je ramène ici aujourd'hui Ro Alejandro, c'est que j'avais tort de le sous-estimer. Je vais vous dire pourquoi. Mais avant, on écoute de la musique car je parle trop. L'avant-dernier morceau de cet album s'appelle De Carolina. Il est en featuring avec DJ Playero, dont je vous parle juste après. Mais pour l'instant, musique.
No, no.
alors, De Carolina de Ro Alejandro en featuring avec DJ Playero. Un avis à chaud, mon cher Clément ?
Écoute, pour être tout à fait honnête, au début, ça démarre le côté très électronique de la prod.
Ouais.
Je suis sceptique, tu vois. Et en fait, plus le morceau avance, plus je me fais totalement avoir par la performance de Ro Alejandro.
Ouais.
En fait, il y a un truc, je trouve une ambiance dans sa manière de poser, de... Ouais, sur la prod, qui fait que je crois que la prod, finalement, je m'y habitue et je l'accepte carrément.
Mmh.
Et lui, je trouve qu'il bastonne bien dessus. Du coup, ouais. Non, au final, c'est cool. C'est
okay.
Petite curiosité d'aller écouter, parce que j'avoue que je connais que... vraiment, je connais Ro Alejandro, parce qu'à priori, je sais que c'est le mec de Rosalia, mais sinon,
ouais.
C'est, tu vois, j'avais pas plus de ça. Et je sais qu'effectivement, voir passer de temps en temps sur Jetlag, voilà, je vois que c'est un nom important, mais j'avais... J'ai pas
t'as
vraiment...
pas écouté plus que
ouais,
ça.
J'ai pas plus écouté que ça, donc voilà, ça c'est okay. Une petite curiosité. J'aime bien t'entendre parler de ce monsieur.
Bah écoute, be ready, parce que j'ai écrit beaucoup. en fait, déjà, moi, j'ai choisi ce morceau. Comme toujours, c'est toujours un peu difficile de ramener un morceau d'un album que t'as aimé, parce que bah, c'est jamais facile, tu vois. Mais en fait, celui-là, ça me paraissait être le plus évident. Déjà, parce que je trouve que c'est 3 minutes de Pereo, le truc se te laisse pas tranquille, quoi. Et c'est genre, il n'y a pas de répit, il n'y a pas de break, c'est genre reggaeton duro. Et en même temps, avec un espèce de truc un peu futuriste, justement, tu parlais de la prod un peu électro et tout, et en effet je trouve qu'il y a ce côté futuriste un peu synthé électro dans la prod, mais la rythmique elle reste pereo, c'est un poum tchaka poum poum tchaka. Bon, je sais pas le faire, mais vous avez l'idée. et en fait Carolina, c'est la ville d'où est originaire Ro Alejandro, et c'est aussi une ville qui fait partie des berceaux du reggaeton. Le sample que vous entendez au tout début du titre, qui fait La gente sabe que... Et ben c'est un extrait du titre qui s'appelle La gente sabe, ça tombe bien,
tout simplement.
De Michael Emmanuel, qui est extrait lui-même d'une mixtape de DJ Playero, qui est sorti en 93, donc l'année de naissance de Ro Alejandro, pour remettre un peu de contexte. DJ Playero, c'est un des DJ qui a aidé à développer le reggaeton, et j'allais écrire tel qu'on le connaît, mais en fait, c'est un peu tiré par les cheveux tel qu'on le connaît, plutôt le reggaeton des années 2000, quoi. Le reggaeton duro, dont l'exemple que tout le monde connaît à peu près, c'est Gasolina de Daddy Yankee. Et il faut savoir que DJ Playero, c'est un des premiers DJ, par exemple, qui a donné sa chance à Daddy Yankee sur une mixtape en 92. Et à l'époque, c'est des mixtapes qui sont diffusées un peu sous le manteau, parce que ça parle, entre autres, de fumer de la marijuana. Et donc, du coup, c'est assez mal vu par le gouvernement et tout. Et c'était des mixtapes qui mélangeaient, bah, en fait... les origines du reggaeton, c'est-à-dire du reggae, du raga, du hip-hop, du dancehall, le tout avec des freestyles rappés en espagnol par-dessus. Autant vous dire que c'est vraiment un symbole que Ro Alejandro ramène ce pont du reggaeton sur son album, et en plus il le fait à plusieurs reprises, c'est-à-dire que Playero il est sur 2 ou 3 autres morceaux je crois en termes de production, et il y a vraiment un côté parler à la communauté reggaeton quoi.
Ouais,
c'est que
sûr,
en fait bah, tous les gens
sur les hommages,
c'est ça, tous les gens qui ont grandi avec ils sont en mode bah ouais c'est des morceaux qu'on
c'est
connaît
le
par cœur.
Première du
exactement c'est le DJ première du reggaeton tout
reggaeton,
à fait et en fait on l'entend dans ce morceau, alors vous n'allez pas l'entendre dans l'extrait je pense, mais à la fin il y a tout un bruit de foule où il fait un espèce de showcase et tout, et dans le clip à ce moment là il y a lui qui fait un showcase, donc tu sens qu'il est au milieu d'une foule de gens qui sont ultra fans, enfin voilà forcément je pense qu'il y a un côté en plus bah, Puerto Rico c'est une petite île, donc quand t'as une resta qui vient de par chez toi en général tu l'as un peu vu grandir, donc donc voilà, et il y a voilà c'est ça. Il y a un battle de danse et tout, donc il y a un peu ce côté bah, culture hip-hop qui a été amené dans le reggaeton, quoi. Et je trouve ça assez cool. Et sur ce morceau, il rend hommage bah, forcément à sa ville, mais au final, sur tout l'album, il rend hommage à son île, de manière générale, avec d'autres artistes majeurs du reggaeton, via soit des samples, soit des invitations. Il y a notamment Baby Rasta, sur le morceau Punto 40, qui est genre le gros single de l'album. Et en fait, ça, c'est une invitation et en même temps un sample, puisqu'il sample un morceau des années, pareil, 90 ou 2000, qui s'appelle Tengo Una Punto 40, et c'est vraiment le morceau original, un morceau reggaeton à l'ancienne, hip-hop en fait. Franchement, moi, je l'ai écouté quand j'ai écouté Punto Quaranta. Du coup, j'étais là, bon, ça, c'est un sample grillé à 8000, tu sais, c'est obligé, ouais, tu vois.
Vraiment,
ouais. Ouais. Et donc, du coup, je me dis, tiens, c'est quoi ? Et je vais écouter le morceau. Et le morceau original, il est trop bien, pareil, tu vois. J'étais en mode, hé, j'adore. C'est pas du tout la même vibe parce que les morceaux de Rauw Alejandro sur cet album sont quand même vachement électroniques et vachement dans un espèce de truc un peu futuriste et tout. Bah, ça s'appelle Saturno, donc vous voyez un peu l'idée, quoi. Et dans les autres artistes importants qu'on croise sur l'album, il y a Archangel et Daddy Yankee, forcément. Donc voilà, c'est un peu un espèce de... Ouais, de dommage, quoi. Je pense, voilà, il est à son troisième album. Il a bien fait sa...
Ouais, il a fait ses preuves avant, là. Ouais, il arrive, il peut se permettre de fitter avec des gros noms.
Ouais, bah, c'est pas comme s'il l'avait pas déjà fait avant. Hein, mais...
Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Là, en tout cas, il y a un truc de...
Mais là, ouais, il y a vraiment un truc dommage que je trouve assez cool sur cet album. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est bien de prendre des Carolina comme exemple. Et ce qui est bien, c'est que je trouve, dans ce disque, on passe par plein de... sonorités un peu différentes. Alors il y a du perreo, voilà, du reggaeton comme on aime et tout, mais il y a aussi des titres un peu plus calmes, notamment un morceau que j'ai hésité à ramener qui s'appelle Más de una vez, qui incorpore un sample d'une chanteuse, enfin non, c'est pas une chanteuse, c'est une actrice, je crois, espagnole, qui a sorti un album dans les années 80, et donc du coup, elle est samplée là-dessus. Et il y a d'autres titres avec des sonorités vachement 80, ou alors vraiment avec des synthés vraiment vénères, notamment sur Belle de Menta ou Dime Quién, qui est pas mon morceau préféré, mais je vous le dis, parce que c'est vraiment assez surprenant. Enfin, genre vraiment, il se balade sur des trucs assez différents. Voilà, donc c'était pour vous parler de Rauw Alejandro, et je vais prolonger l'écoute, bien sûr, en vous disant d'aller écouter Saturno. Et mes deux autres recos, ça va être la mixtape Playero 38, je vais pas la tenter en espagnol, que vous pouvez trouver en partie sur les plateformes de stream. En gros, il y a des espèces d'éditions spéciales, machin, je crois qu'elle a été rééditée, blablabla, mais au pire, vous tapez Playero 38 sur YouTube, vous allez la trouver, il y a des playlists à rallonge, c'est des trucs qui sont hyper longs, parce qu'en fait, ça mixe plein de trucs différents, il y a des espèces de freestyle qui font 7 minutes, puis il y a des morceaux qui font 3 minutes avec différents samples et tout. Et pour continuer dans le reggaeton duro, je vous recommande l'album Palmundo de Wisin et Yandel, qui est un disque qui compte plusieurs gros classiques du reggaeton des années 2000, notamment Noche de Sexo et Rakata, auquel je rajoute aussi La Barilla, qui est un morceau en featuring avec Hector El Fazer. Et c'est un titre qui sample le fameux Murder, She Wrote de Chaka de Mus et Players, qui lui-même sample un morceau de raga de Shabba Ranks. La boucle est bouclée sur les origines du reggaeton. Et voilà, on a fini.
Et tout ça à retrouver dans les notes du podcast être bien, bien, bien utiles.
Tout à fait.
Mais j'ai bégayé derrière toutes ces références.
Ah ouais, Shabba Ranks, j'en ai déjà parlé.
Non, oui, ça, oui, non, mais là, ce que je crois que t'as terminé. Non, mais c'est bien, c'est cool. Ça, déjà, il y a plein de choses à aller écouter.
Oui. N'hésitez pas. C'est vraiment très bien. Moi, je suis très contente là de. En fait, c'est ça que je trouve cool aussi avec ce disque de Rauw Alejandro, c'est que. Quand il y a des albums comme ça, et c'est pareil avec celui de Motomami, tu vois, genre de Rosalia, c'est qu'il y a des refs à la culture hispanique, hispanophone, et reggaeton et tout, et du coup, tu peux aller derrière diguer des trucs que bah, toi, en tant que petite meuf, par exemple, née à Saint-Benoît-la-Forêt en France, et ben, tu ne connais pas, au hasard. Et donc du coup, c'est cool d'avoir ces points d'entrée-là pour derrière aller découvrir le reste de la culture reggaeton qui est vraiment genre ultra... passionnante, moi, je trouve.
Ah bah, c'est sûr que là, c'est un univers, c'est vaste, hein, quoi.
Ah bah
c'est,
oui, t'as fait, ouais.
Il y a besoin de, voilà, il faut y mettre un peu de cœur et d'énergie pour justement, si ça t'intéresse, mais c'est vrai que, ouais, bah écoute, c'est bien, moi, effectivement, à part là, je regarde un petit peu sa discographie, je pense à part, j'avais vu passer sa tête, effectivement, sur un featuring avec Shakira, avec Jennifer Lopez et tout, mais c'était tout, quoi.
Ouais, ouais. Bah, il a fait il a quand même un featuring sur le morceau Party de Bad Bunny sur le dernier album.
Ouais, c'est vrai. Oui, et qui est plutôt un truc que j'avais plutôt bien aimé. Ouais. Mais oui, c'est vrai que je l'avais finalement pas tant identifié que ça, quoi.
Ouais,
donc
ouais.
C'est bien.
Bah après, ouais, c'est ça. Je sais pas si t'écoutes beaucoup de reggaeton non plus dans ton quotidien, tu vois. Parce que en fait, j'ai quand même l'impression.
Plus depuis le début de ce podcast.
C'est vrai. C'est vrai. Mais j'ai quand même l'impression que les artistes reggaeton, pop reggaeton, etc., ils fit vachement entre eux.
Bien sûr.
Et ouais. Où du coup, en fait, tu les retrouves un peu tous.
Oui, une fois que t'as plongé un petit peu c'est dans ça. Cet univers-là, ouais. tu retrouves ça. Ok, et bah allez, let's go.
On passe au son d'après alors.
pour continuer, je vous propose de faire un petit saut dans le temps et dans l'espace, puisqu'on va retourner dans les années 70 au Liban.
Okay.
Petit rappel historique, le Liban est devenu indépendant en 1943. Et en fait, c'est depuis, en tout cas, un pays très cosmopolite qui entretient des liens forts avec d'autres pays, notamment le Brésil. Moi, j'avoue, je découvrais ça,
okay,
ce lien-là. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, par exemple, la diaspora libanaise au Brésil est la plus large au monde. Et okay, voire même, elle est plus large que la population libanaise en elle-même. Donc tu vois, ça représente plus de 4 millions, je crois, de Liban. Enfin, tu vois, de la diaspora libanaise.
Ouais,
donc,
okay.
C'est-à-dire qu'ils sont arrivés il y a longtemps, et donc un peu
les
ancêtres,
les descendants
okay, et tout. Voilà. Mais ça génère quand même... C'est vaste, tu vois.
Ouais, ouais.
Et du coup, dans les années 70, il est pas rare d'écouter pas mal de bossa nova dans les rues de Beyrouth.
J'adore.
Cette musique brésilienne, elle va beaucoup influencer particulièrement le chanteur et guitariste qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Issam Ajali. C'est un artiste assez militant, positionné à l'ultra-gauche de l'échiquier politique, et ce qui le forcera d'ailleurs à s'expatrier à Chypre, puis à Paris au moment de la guerre civile libanaise qui éclate en 1975.
Okay.
Et à son retour au Liban, quelques années plus tard, il fonde le groupe Ferkat Alard et rencontre le producteur Ziad Rabani, lui aussi un grand amoureux de la musique brésilienne. Et il faut savoir que Ziad Rabani, c'est aussi le fils de l'immense chanteuse Férouz, légende un peu de la musique okay, libanaise. Et son fils, bah, lui, à l'époque, il avait déjà particulièrement œuvré sur des arrangements qu'on pourrait qualifier de bossa nova libanaise.
Ok.
Et voilà, bref, Ziad, Issam et son groupe se retrouvent en studio pour bosser sur un album du nom de Ogneia. J'espère que je le prononce bien. Et c'est un album qui a instantanément touché mon petit cœur. C'est une musique à la jonction entre la musique arabe, le jazz, la folk, la pop psychédélique et la bossa. Je vous propose qu'on écoute du coup un petit extrait, Antazerni. On écoute et puis on revient un peu parler de cette musique, tout ça. C'était Ferkat Alard, désolé, ça sera d'amener du podcast aussi, hein, avec le morceau Antazerni. Louise,
oui,
je me tourne vers toi, qu'est-ce que tu en as pensé?
J'ai trouvé ça chambé, mais ouais, la première question que je me pose, c'est comment tu trouves ça?
Comment j'ai découvert ça?
Et ensuite, franchement, moi je trouve ça assez dansant, mais comme tu as dit qu'il était assez engagé politiquement, je me dis... je me demande qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte, est-ce que ça a
j'ai
un rapport,
pas j'ai pas eu malheureusement j'ai pas eu ces infos là parce que ouais, sur les quelques articles globalement, si, de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a une grande partie en fait des paroles de cet album qui sont inspirées de trois poètes palestiniens, je crois,
okay,
qu'ils datent du 19e siècle si je dis pas de bêtises.
D'accord.
Voilà, et qui a priori je pense entrent en résonance clairement avec ce que traversait en tout cas le Liban à cette période là
ouais, okay.
Mais voilà, j'ai pas plus de détails, okay, je vous avoue que je suis pas allé faire Google Translate.
Ouais.
Mais ça c'est la première question, la deuxième, enfin la première du coup auquel je réponds, je découvre à nouveau ça grâce à Radio Nova.
Okay.
Et en fait je tombe sur, je crois que c'est ce morceau là que j'entends sur l'émission. Et instantanément, j'ai fait OK, je note. Ouais. Et surtout, je vais en parler, mais en fait, il y a tout un label en fait allemand qui s'appelle Habibi Funk, qui justement se consacre depuis maintenant plusieurs années à rééditer des albums comme ça de musique arabe, tu vois, qui sont un peu perdus.
Ouais, ouais.
Voilà. Et du coup, moi, j'avoue que ça a été un coup de cœur immédiat parce que musicalement, c'est trop bien. Ouais. Moi, c'est ça qui, le premier truc, moi, qui me.
Moi, je me suis demandé combien de musiciens sont venus enregistrer sur ce morceau.
C'est ça. C'est difficile à dire parce que comme je trouve ça rejoint. Moi, je trouve ça tellement riche musicalement.
Ouais, de ouf.
Il y a un nombre de couches et en même temps, je trouve que c'est pas. Enfin, si, il y a quand même un côté très pop orchestral que j'aime bien. Notamment le travail sur les cordes là.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
Qui est vraiment génial. C'est d'arriver à faire matcher comme ça aussi bien le piano, ses cordes, des cuivres un peu, je pense, avec des sonorités justement peut-être plus arabes et tout. Je trouve que ça te met dans une telle ambiance et je sais pas, moi j'ai l'impression de voyager dans un imaginaire que je n'ai clairement pas connu, enfin, où tu vois, à travers des films en fait qui datent un petit peu de où tu vois Paris dans les années 70, un petit peu, en fait, cette période-là, tu vois, une sorte. Et je trouve que ça a un cachet de fou. Et du coup, je trouve ça ultra classe comme musique et je trouve ça trop bien. En fait, c'est pas si fréquent que ça, j'ai l'impression, d'avoir des musiques qui me transportent à tel point dans une période, tu vois. Et pourtant, c'est pas faute d'écouter, tu vois, du blues d'une certaine époque ou quoi. Mais là, il y a peut-être parce que c'est justement musicalement hyper, hyper riche, il y a une bulle qui se crée. Et c'est par exemple, c'est génial, tu vois. Je sais que j'ai écouté plusieurs fois l'album juste en marchant dans les rues de Paris, et tu sais, c'est vraiment comme si je revenais presque 50 ans plus tôt.
D'un coup, t'as des pattes d'eff,
exactement. Voilà, et tu sais, tu revois des vestes en cuir, des vieilles bagnoles, enfin, je sais pas, ouais, c'est moi en tout cas, c'est ce que ça génère chez moi, et du coup, je trouve ça génial à écouter et vraiment j'ai envie de vous encourager forcément du coup à aller écouter l'album parce que là je vous ai mis un petit peu, je pense, le morceau qui est un peu présenté comme le single de l'album. Okay. Mais je trouve qu'il y a plein de belles variations, notamment des morceaux plus posés, je pense à l'ouverture du disque qui s'appelle Matar Al Sabah, où j'adore particulièrement, il y a un côté musique de film et surtout un grain qu'on entend dans l'enregistrement de la voix qui est, je trouve, très très représentatif de cette période. Et ça, c'est pareil. Il y a quelque chose là-dedans qui me touche énormément. Ouais. Et du coup, tout ça, voilà, c'est un album qui a été du coup composé à la fin des années 70. Et si on a la chance de le réentendre dans ses qualités aujourd'hui, c'est grâce au fameux label allemand Habibi Funk, qui a été créé du coup par Gianni Sturz, qui est à la base un DJ et fondateur aussi d'un autre label qui s'appelle Jakarta Records. Et c'est lors d'un voyage au Maroc. Tu connais Jakarta Records ?
Ouais.
Ouais. Et bah voilà, c'est le créateur de Jakarta Records. Habibi Funk est un sous-label de Jakarta Records. Et c'est en fait Gianni Sturz, il se trouve qu'il se retrouve parce qu'il est DJ à être invité au Maroc. Donc lors de son voyage, il décide, tu sais, dans un de ses moments de pause, du coup, aller faire le tour un peu des disquaires du coin. Et il découvre des centaines d'albums du patrimoine voués à disparaître parce que les structures sur place destinées un peu à distribuer cette musique sont peu nombreuses. Et donc c'est vraiment de la musique qui risque de tomber dans l'oubli, quoi. Et donc en fait il décide à ce moment là de dire vas-y, je monte une structure pour héberger ces pépites oubliées et puis surtout dans l'idée de pouvoir derrière les rééditer. Donc derrière, j'ai lu un petit peu le travail que ça nécessite. Tu vois, il y a un gros travail notamment d'investigation qui est mené pour retrouver soit les artistes en eux-mêmes, parce que souvent ils font plus de musique. Tu vois.
Ouais.
Là, l'exemple de le chanteur de Ferkat Alard, donc c'est Issa Majali, et ils l'ont retrouvé. Il se trouve qu'il a priori une petite boutique de bijoux un peu paumée dans Beyrouth, mais déjà pour refaire ce chemin là vers lui, ça a été a priori assez compliqué, et parfois même tout simplement les artistes sont décédés. Donc pour retracer la chaîne des ayants droit de la musique, c'est quand même une sacrée émission. Là, je crois que le label a été créé en 2015 et ils ont déjà édité plus d'une vingtaine d'albums.
Ok.
Par exemple, pendant toute la période Covid, toute la partie investigation, elle a été un peu mise en stand-by. Mais donc j'avais envie de mettre un petit coup de projecteur sur Habibi Funk parce que j'ai plongé dans un univers que je trouve incroyable. Et pour avoir parcouru rapidement un petit peu, petit, voilà, un certain nombre de, des albums de leur catalogue. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que c'est souvent de la musique à la frontière de plusieurs genres musicaux. Et donc, bah voilà, il y a un truc ultra riche, varié et du coup assez passionnant. Donc voilà, moi je peux que vous conseiller de vous abonner à leur Instagram par exemple pour guetter les prochaines sorties. Et puis vous pouvez aussi retrouver du coup l'intégralité sur leur Bandcamp et sur les plateformes de streaming. Moi je sais que voilà, vous tapez à BB Funk, vous allez tomber sur le.
Ouais, si c'est de la réédition.
Sur la page de leur label, etc. Et voilà, donc pour prolonger l'écoute, je vous conseille l'album Ogneia de Fer Catalard. Je vous conseille aussi le premier album du chanteur Issa Majali, qui, alors bon, je vais pas vous faire le, ouais, là ça va être trop compliqué de vous prononcer le nom de l'album. c'est ouais, non, voilà, je vais,
d'accord,
je respecte trop ça là, j'ai pas l'accent, j'ai pas tout ça. Et et un autre album que j'ai pareil dans ce que j'ai un peu eu le temps d'écouter quand même, je vous conseille The Slam Years 1984, 1983-1988, du chanteur pop égyptien Hamid El Shaïri, qui est globalement, du coup, ce que j'ai cru comprendre, je pense que c'est une sorte de condensé un petit peu de ce qu'il a fait. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai voulu parler en anglais, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'il y avait un The Slam en plus, mais voilà, ouais. C'est de la pop égyptienne, donc il n'y a même pas en plus de raisons que ça de parler anglais. Voilà, c'est, vous retrouverez ça dans les notes du podcast et dans notre post Instagram
bien sûr.
Dédié voilà, à cet album. Et puis après, derrière, je vous laisse aller découvrir un peu plus à BB Funk.
Amazing!
Super, on peut passer au son d'après.
Pour ce dernier morceau de l'épisode, moi, j'ai été contrer mon manque d'inspiration dont je vous parlais tout à l'heure en allant sur le site de la Mailtape, qui est un concept très cool. En fait, Mailtape, c'est une courte sélection musicale qui sort chaque dimanche avec un artiste invité à chaque fois. Et pendant plusieurs années, moi, j'ai fait partie de l'équipe de bénévoles. Et souvent, quand je suis en crise d'inspiration musicale, je suis sûre que je vais trouver de l'inspiration là-bas. Parce qu'il y a toujours déjà des artistes invités dont j'ai jamais entendu parler. C'est toujours des trucs que je vais pas écouter de moi-même parce que c'est soit des trucs électroniques sombres que j'ai jamais entendu, soit des trucs ultra
un peu hors de ton radar quoi.
Ouais, c'est ça. Ultra folk, ultra indé en fait, c'est très indé. Et du coup en gros, c'est des sélections de 7 morceaux, l'artiste invité propose 3 morceaux, il y a un morceau de l'artiste invité et après la personne qui crée la sélection globale rajoute 3 morceaux pour clôturer la playlist un peu quoi.
OK, trop bien.
Et à chaque morceau, son mood, tu vois, genre il y a chaque couleur correspond à un mood, donc tu peux avoir dreamy, trippy, un peu genre différentes ambiances musicales, quoi. Donc il y a des fois des mixtapes qui vont être que dreamy, donc tu vas avoir que des morceaux très smooth et tout, puis d'autres qui vont être un peu plus chelous, un peu plus énervés, etc. Et donc ça n'a pas loupé, j'ai écouté la dernière sélection à l'heure où on enregistre cet épisode, où l'artiste invité c'était Le Comte de Bréjo, j'espère que je prononce correctement, G-E-O-T, ça se prononce Jo. On va dire
ouais,
que
ouais,
oui.
Ouais, oui, voilà. Je dirais ça. Ouais.
Okay. Et dans sa sélecta, il y avait un titre de Dina Summer. Alors Dina Summer, c'est un trio qui est formé par le producteur allemand Calipo et le duo de DJ et producteur gréco-allemand Local Suicide, qui est aussi en couple à la vie, qui est composé de Brax Moody et Vamparella. Alors, honnêtement, j'ai jamais entendu parler d'eux avant, voilà, je vais pas vous mentir, mais Local Suicide, ça a l'air d'être un projet qui est assez actif sur la scène berlinoise, et Calipo, c'est aussi un producteur qui a un autre projet qui marche hyper bien, etc. Donc je me suis dit, bon, c'est que ça doit être des gens qualitatifs, et surtout, bah en fait, moi j'ai écouté un morceau d'eux, j'ai dit ça, je vais écouter le reste. Et ils ont en effet sorti un album ensemble, sous le pseudonyme Dina Summer, et qui est un peu né de leur envie de faire de la musique ensemble. Ils se sont rencontrés il y a quelques années et ils ont sorti un premier EP en 2021 sur le label indépendant de Local Suicide et un album Rimini qui est sorti l'été dernier sur le label Audiolite. Alors, l'album s'appelle Rimini, mais est bien plus sombre musicalement que ce que ça pourrait laisser penser.
T'as alors, un petit côté mignon, là, dit comme ça.
Ouais, c'est ça. j'ai tout de suite, moi, accroché avec la proposition musicale qui mêle plein d'influences plutôt 80s, autant du côté de l'italo-disco que de la new wave, en passant par l'électroclash, un genre musical que je connais de nom, mais que j'aurais été incapable de vous décrire avant d'avoir lu 2 ou 3 choses dessus. Et si je me permettre de vulgariser, je dirais que l'électroclash, c'est une espèce de frange électro du mouvement punk. Et dans les artistes que j'ai vu citer comme étant de l'électroclash, il y avait notamment Miss Kittin, et Sexy Sushi, que je connaissais, donc voilà, je vous pose ça là.
Ah oui, jolie idée.
Voilà, et en tout cas, dans le cas de Dina Summer, ça donne un disque qui est assez sombre au global, même s'il y a quand même quelques morceaux un peu plus lumineux. Je vous propose qu'on écoute un titre qui m'a particulièrement parlé sur le projet, qui s'appelle « Mirage ». It's a distortion, superior mirage, out of proportion, in camouflage, Fata Morgana, I had a crush. De Dina Summer. Alors, est-ce que c'est une musique qui te parle, Clément ?
Ouais, bah, c'est ce que moi, c'est ce genre de vibe me plaît plutôt. Mm-hmm. Ce que j'aime bien là en plus, c'est qu'il y a une espèce d'ajout de petites sonorités que je qualifierais d'orientales, tu vois. Je trouve un petit peu dans ces sonorités que j'aime bien, du coup, en tout cas qui m'amène une originalité que j'entends un peu moins souvent. Et puis je suis content surtout en écoutant le morceau. J'ai ma réponse parce que je voulais te la poser. C'est il est où le rapport avec Donna Summer? Parce que quand même Dina Summer, Donna Summer, je pense que c'est pas anodin. Et du coup, en écoutant, je comprends un petit peu parce que en tout cas, je trouve qu'on perçoit tout de suite une sorte d'évolution notamment de la musique de Giorgio Moroder sur le morceau I Feel Love. Enfin, tu vois, je trouve qu'on est dans ce type de tradition là.
Je pense qu'en tout cas, oui, eux, ils sont dans un espèce d'amour de la musique électronique, des premières musiques électroniques qui viennent des années 80, quoi, c'est
voilà,
sûr.
Voilà, exactement. En tout c'est cas, sûr. Je trouve que tu sens cette filiation, on va dire.
Ouais. Et moi, en fait, d'entrée de jeu, je trouve qu'il y a dans les synthés quelque chose de très Flavien Berger sur Léviathan.
Ouais, parce que je pense qu'à mon avis, ça doit être les mêmes. Oui, je vois ce que tu veux dire.
Ouais,
c'est pas du tout la même musique, mais je comprends.
Non, c'est pas du tout la même musique, mais c'est ça. Je pense que les instruments, les synthés sont peut-être un peu similaires. Mmh. Et du coup, ce côté sous-marin sombre qui peut y avoir chez Flavien Berger dans Léviathan, je trouve qu'en l'occurrence, il y a un côté un peu plus chaleureux, notamment sur ce morceau qui s'appelle Mirage et qui est justement très inspiré, je crois, par la passion de la chanteuse pour l'Égypte antique. Voilà.
Ok,
ça
d'accord.
Vous donnera des infos. Et en fait, notamment
là,
voilà, les petites mélos synthés dont tu parles là, ça doit venir de ça. Et en fait, moi, ce que j'aime dans ce morceau, mais de manière générale, je trouve dans leur proposition musicale, c'est cette voix féminine qui parle, parce que à ce niveau-là, c'est presque pas du chant, par-dessus toutes les productions. Et je pense que ça passe ou ça casse. Je pense qu'il y a des gens que ça va saouler très vite. Mais moi, il y a un truc qui me rappelle vachement les morceaux d'Italo Disco. Tu sais, c'est des paroles ultra simples, elles prennent pas beaucoup de place, mais ça appuie la musique. Il y a un moment donné, tu vois, il y a un break et elle parle, elle dit trois mots et bim, ça repart. Et c'est en mode ok, c'est super, on danse.
Ah
c'est
ouais,
la
je comprends.
Fête.
Non, mais c'est clair qu'il y a de ça, mais ça me fait vraiment penser. Moi, j'avoue que tu vois, c'était peut-être le bémol que j'allais mettre, c'est-à-dire que sa voix là me marque pas. C'est-à-dire que je vois bien, je l'ai aussitôt entendu, je l'ai quasiment déjà oublié. Je pense que, et parce qu'il y a une manière de proposer qui est très monocorde, tu vois.
Ouais.
Et à l'inverse, par exemple, d'un groupe que d'ailleurs j'aurais pu ramener, ou en tout cas j'ai hésité à ramener, qui s'appelle Agar Agar, dont j'ai déjà parlé là.
J'ai jamais trouvé que c'était
Agar. Et en fait, c'est un peu... On est sur des sonorités un peu dark comme ça.
Ouais.
Sauf que la voix de la chanteuse, tout de suite, je la retiens beaucoup plus. C'est, voilà, des trucs comme ça. Mais sinon, dans l'esprit, j'aime bien, quoi. Après, comme tu dis, je suis d'accord, c'est vrai que ça peut... Je pense que ça peut rebuter certaines personnes.
Ouais, je pense. Enfin, en vrai, je pense que un peu ça passe ou ça casse, mais voilà. Et en gros, tout l'album, il a été composé en vrai avec un micro et deux synthés, quoi. J'ai pas les rêves techniques des synthés, même si mon côté geek aurait aimé le savoir. En tout cas, de ce que j'ai compris, il y a au moins un Moog, puisque la chanteuse explique dans un article que, en gros, le titre qui ouvre l'album, il s'appelle Dominator, et c'est aussi le nom d'un des presets du Moog sur lequel ils ont fait ce son-là. Et donc, en fait, cette formule-là de Dina Summer, ils sont trois, et elle est faite pour le live, quoi. Et ils sont deux synthés sur scène, il y a elle qui chante, alors que d'habitude c'est plutôt tous les trois, ils sont DJ et ils passent derrière les platines et ils parlent pas, tu vois.
Ouais,
donc
ouais,
du coup il y a un côté un peu cette envie aussi d'aller faire du live, quoi. Moi j'aime beaucoup ce côté ultra rétro, ça me donne envie d'en écouter plus d'ailleurs. Et tu vois, en écoutant ça, je me suis dit franchement trop dommage que j'ai pas les refs des trucs qu'ils ont écoutés pour faire ça, tu vois, parce que je kifferais, je pense, en fait, tu vois. Si jamais il y a des gens qui sont un peu spécialisés là-dedans et qui m'écoutent, n'hésitez pas à m'envoyer des références de trucs à écouter, parce que ça m'intéresse vraiment, parce que en fait du coup je me suis rendu compte que toutes mes refs, elles sont un peu dans des trucs actuels, tu vois. Genre là je parlais de Flavien Berger, et mon autre ref, je me suis dit, ça me fait un peu penser à la vibe du duo Baraka que j'avais ramené
je crois que j'avais cité Agar à ce moment-là.
Ouais,
parce
exactement,
que, je pense que c'est, voilà, c'est ce type de...
Et du coup ouais, c'est ça, il y a cette voix qui réussit à imposer sur des productions qui vont piocher dans plein d'influences de musique électronique, mais qui restent quand même assez sombres. Et franchement, pour avoir écouté un ou deux DJ sets de Local Suicide, ça ressemble vraiment, la musique là qu'ils font, ça ressemble vraiment à ce qu'ils jouent tous les deux. Il y a une énergie hyper dark wave, new wave, qui reste quand même très dansante, mais qui est quand même assez sombre, quoi. Et je parlais de Flavien Berger, il y a un morceau sur l'album Rimini là qui s'appelle Mars. Et ça m'a tout de suite fait penser à l'EP Mars Balnéaire de Flavien Berger, parce que vraiment, le truc de base est le même, c'est-à-dire genre, qu'est-ce qui se passe si on passe des vacances sur Mars, quoi. Et donc elle chante des trucs assez simples autour de ça, mais donc du coup forcément, entre la musique et la thématique,
sûr,
j'étais vraiment en mode, Flavien, okay, tu es là, on est en vacances sur Mars avec toi. Et dans l'ensemble, je trouve que c'est un album qui se laisse écouter assez facilement. Il n'y a rien de trop pointu à mes yeux. Et c'est des morceaux qui ont des thématiques assez faciles à capter, tu vois. Genre, chacun a une thématique, c'est assez clair. Autant dans les paroles que dans la musique, ça se répond assez bien. Et je trouve que c'est une très bonne musique. Moi, je me vois très bien me motiver, tu vois, à faire du sport ou à me sortir un peu les doigts pour faire des trucs une fois que je mets ça dans mes oreilles, tu vois. Et pour vous donner un peu de biographie, en gros, donc Dina Summer, c'est donc, on va dire, le pseudonyme de Dina, la chanteuse, qui est Vamparella en tant que DJ. Elle est grecque et c'est une des premières DJ de Thessalonique, qui est une ville au nord de la Grèce. Puis elle a déménagé à Berlin. Et lui, elle rencontre son mec, du coup, là-bas, qui lui est originaire de Munich à la base. Et elle emménage, du coup, il y a quelques années maintenant, enfin, il y a un long moment maintenant, je crois, à Berlin. Ils se rencontrent et ils commencent à former Local Suicide. Et ils se produisent en DJ set quasiment uniquement, quoi. Et ils ont commencé à produire il y a quelques années. Et en 2013, ils rencontrent, du coup, Calippo, qui est un producteur pour un groupe, un duo de punk électro, de ce que j'ai entendu, qui s'appelle Frittenbude. Je ne sais pas comment le prononcer. Franchement, j'ai écouté, et je ne vais pas mentir, je n'ai pas du tout aimé. mais il prend du coup cet alias de Calippo pour son projet solo, avec lequel il a sorti 5 albums, notamment plusieurs sur le label Key Records, qui est cofondé par Christian Loeffler, pour les personnes qui connaissent, qui est un producteur allemand aussi, qui fait un peu... un genre de deep house assez organique. Et franchement, bah, quand tu connais Christian Loeffler et que t'écoutes la musique de Calippo, tu te dis que c'est normal qu'il soit signé sur ce label. C'est voilà, assez logique, quoi. Après, moi, je suis pas hyper fan de ce que j'ai entendu de Calippo. J'ai un peu essayé d'écouter les albums, mais ça m'a moins séduit. Alors, je sais pas si c'est parce que les projets en eux-mêmes sont pas aussi ouf que ce que j'espérais, ou parce que juste c'est une musique qui me parle pas trop en ce moment et que du coup, je suis passée à côté, tu vois. Et donc du coup, en gros, ils se sont rencontrés en 2013, et après quelques années, ils ont enfin commencé à bosser ensemble sur ce disque, qui est conçu donc à la base pour être un album d'été, d'où le nom Dina Summer. Alors je pense que ça fera sourire quand même pas mal de gens, parce que quand on pense à album d'été, je suis pas sûre qu'on pense à de la dark wave.
Non, c'est clair, ça mais... c'est évident que c'est pas ce qui paraît le plus évident.
Exactement, mais pour eux, c'est un album d'été, donc j'imagine ce qu'ils écoutent en hiver. ça m'intrigue. Et pour prolonger l'écoute, du coup, je vous conseille bien sûr d'aller écouter Rimini, leur album qu'ils ont sorti l'année dernière. Et puis l'album de Local Suicide qui s'appelle Eros Anikate, je pense que ça se prononce comme ça, avec une mention spéciale au titre Jam Bounce Release, qui est en featuring avec un producteur mexicain qui s'appelle Teus Mago, que j'ai beaucoup aimé. Et puis tout à l'heure, je vous parlais de Electroclash et je me suis dit que tiens, ça pourrait peut-être intéresser des gens d'aller lire deux secondes sur ce mouvement-là, qui a l'air assez intéressant, parce qu'en fait, il date d'il y a une vingtaine d'années. Et du coup, j'ai trouvé deux articles, un en français et un en anglais. Donc celui en français, il est sur le média Jack, et il s'appelle 20 ans après, que reste-t-il de l'Electroclash? Et il y a notamment des interventions de Miss Kittin. Et en anglais, il y a un article sur le site de Roland, la marque de matériel électronique, quoi, qui s'appelle... What was Electroclash and where did it go? Et je vous conseille vraiment d'aller lire ces trucs parce que moi, j'ai engrangé plein de refs, de trucs que je connaissais pas, que j'avais jamais trop entendu et tout. Et voilà, je me suis dit que s'il y avait des curieux et curieuses.
Ah, t'as écouté un peu parce que moi, je sais que les deux. Je connais assez mal, mais ouais. Vraiment, je sais que la musique de Miss Kittin et Sexy Sushi, ça me. Les quelques fois où j'entends, ça me.
Ouais,
ça
bah
me parle
alors,
pas du tout, quoi.
Sexy Sushi, moi, ça me parle pas trop, mais Miss Kittin, il y a des trucs que j'aime bien.
D'accord. Ouais. Okay, alors, j'avoue que je pense plus mais... facilement à la musique de Sexy Sushi, qui souvent, je trouve un peu gueulard.
Mais tu vois, Sexy Sushi, je me demande, par exemple, bah, en gros, Sexy Sushi, dedans, il y a Rebecca Warrior. Rebecca Warrior qui a fait un truc avec un des gars de Mode Selector, je pense. Ou...
Possible, ça me dit un truc.
Et je me demande si ça pourrait pas rentrer dans un espèce de post-électroclash musicalement. Et moi, je me souviens qu'en tout cas, je les avais vus en live tous les deux et c'était vraiment chambé. Donc, je pense que sur le papier, il y a un truc peut-être un peu chaotique dans punk électro. Tu vois, genre en tout cas, moi, c'est les deux gros trucs un peu que j'ai retenu. Il y a une espèce de truc rock électro, je sais pas quoi et tout. Et du coup, je m'étais dit, genre, je sais pas si ça va trop me parler. Mais en vrai, il y a des trucs qui peuvent être cool. En tout cas, moi, des extraits que j'ai entendus, il y a des trucs qui peuvent me parler. Donc, à voir, être un peu curieux, voir ce qui passe et ce qui casse, quoi.
Ok,
je pense.
Et ben parfait. Et ben on va. Voilà, avis aux curieux.
Exactement. Je vous mettrai bien sûr les liens des deux articles dans les notes du podcast. Et en parlant de ça, Clément, nous arrivons à la fin de ce podcast.
Aurais-tu
des petites recommandations à faire?
Exactement. La première, vous l'avez entendu en intro de ce podcast.
Oui.
Quand même, pensez-y si vous avez le temps. Ça prend 5 minutes, vraiment grand max. On se pose un petit peu des questions sur déjà qu'est-ce que vous pensez de notre podcast et quel pourrait être l'avenir. Voilà. On a plusieurs idées, mais on a envie quand même d'avoir un petit peu votre sentiment, parce que finalement, c'est vrai qu'il y a des périodes comme ça où on n'a pas l'occasion de trop échanger avec vous, et donc c'est vrai qu'on a besoin de savoir un petit peu ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, voilà, si vous consultez l'Instagram, et puis voilà, quel pourrait être le futur de notre podcast. Donc, vous pourrez retrouver dans les notes du podcast, hein,
oui, tout à fait.
Voilà, un petit dans questionnaire Google Form à remplir, ça nous aide beaucoup si vous avez 3 minutes. C'est vraiment top.
C'est dans le Linktree du son d'après, donc vous avez ça dans les notes de ce podcast. En même temps que les playlists, etc. Vous cliquez dessus et vous allez trouver très vite.
C'est cool. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous les connaissez a priori un peu plus. Si vous avez envie, voilà, si vous aimez ce podcast, si vous avez déjà envie, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram et Twitter. Vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast pour avoir chaque semaine, enfin chaque deux semaines, les... sorti.
Toujours pas habitué. Hein.
Non, toujours pas. je m'y ferai jamais. Voilà, vous savez que là, on a sorti énormément de noms et de références un peu compliquées à prononcer et du coup à écrire. Donc vous pouvez retrouver tout ça dans les notes du podcast. On continue avec, minutieusement à les recopier pour vous. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Vous pouvez retrouver évidemment les 4 morceaux qu'on a écoutés aujourd'hui dans la playlist du son d'après, qui est sur toutes les plateformes, à savoir Deezer, Spotify, Apple et YouTube. Mm-hmm. Et puis, si vous aimez ce podcast et vous voulez aussi nous aider un petit peu à faire grandir ce projet, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple et Spotify. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire et puis à en parler à un ami qui en parlera à un ami. Et voilà, et c'est ça qui fait grandir un petit peu.
La boule de neige.
Exactement. Voilà, c'est tout pour nous. Louise, qu'est-ce qu'on se dit maintenant?
À dans deux semaines.